Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on s'approche de toi. Puis je te remercie, Seigneur, de la joie qui règne dans l'Église à cause du moment qu'on a dans ta présence. Ça fait du bien. Puis de la paix qu'on peut avoir les uns avec les autres. Je te demande que ton Saint-Esprit nous amène à ce qu'on marche dans la victoire, puis on se maintienne dans la victoire tous les jours, Seigneur, qu'on puisse réaliser qu'on est en guerre spirituellement, puis qu'on n'est pas dans un temps de repos, on n'est pas atteint le jour du repos, on est encore dans la marche quotidienne à combattre. Fait que dirige-nous à comprendre ta parole, Seigneur, à réaliser ce qui se passe au présentement, puis on remet tout entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je n'étais pas supposé de prêcher aujourd'hui, mais j'ai eu une grâce, un cadeau qui m'a été fait d'avoir une journée de plus pour pouvoir porter la merveilleuse parole de Dieu. C'est toujours une joie pour moi de vous partager ce message-là.
Quel grand privilège.
Quel grand privilège, parce que la Bible, elle dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ça, c'est nos pieds. Sont beaux à cause du zèle qu'on a à vouloir répandre la parole de Dieu.
Amen.
On parle de choses invisibles. Ça se voit pas à l'œil. Le royaume de Dieu, il est pas quelque chose qu'on voit de nos regards. C'est par la foi qu'on saisit tout le message de Dieu. Puis toute notre marche chrétienne est aussi basée par la foi. Le titre de la nouvelle série que Dieu m'a déjà donné, cette série-là, je ne l'ai jamais apportée ici. Mais c'est quand même une continuité de l'autre série que je viens de finir. Ben, je viens de finir la série le combat spirituel. La série que je vais commencer aujourd'hui, c'est « Préparer pour la guerre ». Nous sommes préparés pour la guerre. Il y a des choses qui ont déjà été faites pour qu'on soit déjà préparé, puis il y a des choses qui se font à chaque jour que Jésus est en train de faire pour nous préparer à être en guerre, à faire le combat qui nous attend. Comme j'ai dit dans ma prière tantôt, on n'est pas arrivé encore dans le jour de repos. Quand je dis le jour de repos, ça nous dit dans la parole, Dieu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa de ses œuvres. Puis il dit, ce 7e jour-là, c'est un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Un jour, on va rentrer dans ce repos, puis on va se reposer aussi de nos œuvres. Mais on n'est pas encore rentré, là. On a des moments de repos dans notre temps de pèlerinage terrestre, mais le vrai repos va être après notre mort. En attendant, on est en guerre, frères et sœurs. Puis il faut le réaliser qu'on est en guerre, parce que si on n'est pas en guerre, on ne pourra pas gagner les batailles de tous les jours. Nous sommes en bataille à tous les jours. On va commencer par une image de l'Apocalypse, dans Apocalypse 19, le verset 11. Ça, là, ça nous montre une vision prophétique. Un jour, Jésus va revenir. Ça va être un jour terrible sur la terre, ce jour-là. Alors regardez cette vision-là, puis c'est vraiment extraordinaire. Puis je vis le ciel ouvert, l'apôtre Jean qui nous dans l'Apocalypse 19, le verset 11. Et voici paraît un cheval blanc. Celui qui le montait, il s'appelait fidèle et véritable. Puis il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça, on le sait que ça parle de Jésus, ce passage-là. Jésus, sachez-le bien, Jésus un jour va revenir. Puis il va revenir sur un cheval blanc. Puis il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y a une autre vision dans l'Apocalypse de Jésus qui avait des yeux comme une flamme de feu, son visage rayonnant comme le soleil en sa pleine force. Ça va éclairer le ciel au jour de son retour lorsque Jésus va revenir. Puis ce personnage-là, il s'appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jean nous a dit dans Jean 1, verset 14? Il dit, la parole a été faite chair. Cette parole-là, c'est Jésus. C'est lui, ce personnage-là, la parole faite chair, qui s'appelle Yeshua. Il va revenir du ciel en vainqueur, sur un cheval blanc, pour venir accomplir quelque chose de grandiose que personne ne comprend à date, parce qu'on a juste des petits flashs. On fait juste avoir une petite idée de ce qui va se produire, mais en gros, c'est que Jésus va venir juger les nations, puis il va les paître avec une verge de fer. Ça va être un temps terrible lors de son retour. Il y a plein de passages partout dans la parole de Dieu qui nous en parlent. Là, au verset 14, ça nous dit, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. » Qui sont les armées qui sont dans le ciel qui suivent Jésus? Parce que quand Jésus revient, qu'est-ce que d'autres versets nous disent? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a une résurrection de tous ceux qui étaient morts, qui sont chrétiens nés de nouveau, qui ont été rachetés par le sang de Jésus, par leur témoignage, par leur confession, par leur engagement envers Dieu. Ils ont été pardonnés, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont scellés comme quoi qu'ils appartiennent à Dieu. Puis lorsque Jésus va revenir, toutes les morts vont ressusciter, les morts croyants, morts pardonnés, ils vont revenir avec Jésus dans le ciel, avec Jésus, et nous qui sommes vivants, qui attendent le Seigneur, on va être tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, puis on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout ça se fait en un instant, en un clin d'œil. La dernière trompette va sonner, il y a 7 trompettes dans l'Apocalypse, la dernière trompette, sling cloud, la résurrection, nous autres on se retrouve sur un nuage, peu importe ce qu'on est en train de faire, tout va arrêter là, des œuvres terrestres, on se retrouve avec Jésus sur un cheval, alléluia, un cheval blanc, c'est les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. C'est quoi ça le fin lin blanc pur? On le voit dans un autre passage, que l'épouse s'est préparée pour son époux, elle a été donnée de se revêtir d'un fin lin. Puis le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Tout ce qu'on a fait présentement sur cette terre en servant le Seigneur, on est en train de rendre de plus en plus blanche notre fin lin, et il y a tous les bijoux, puis tout ce qu'il va avoir autour comme ornement, c'est les récompenses que Dieu va nous donner pour les œuvres qu'on aura faites étant sur la terre. C'est ça qui va nous couvrir, puis on va revenir du ciel avec Jésus. Ça va être un jour terrible, pas terrible pour nous, parce que nous, c'est un jour de délivrance. Ça va être terrible pour ceux qui ne se sont pas repentis, parce qu'il y a d'autres passages qui en parlent, mais ce n'est pas le but de mon message aujourd'hui. Là, de sa bouche va sortir un épée aiguë pour frapper les nations, puis là, il les pètera qu'une verge de fer, puis il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Puis il y avait sur son nom, sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Quand on a mis notre foi en Jésus, c'est pas un simple petit Jésus dans la crèche. Ça, c'est le Jésus, le grand Yeshua, qui a le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit dans le nom de Yeshua. Il n'y a pas rien, il n'y a pas aucun autre personnage plus grand que lui dans toute la création. C'est lui qui va revenir parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il va prendre le contrôle de la planète. Le temps des nations va être terminé. Puis là, nous sommes en guerre présentement en tant que chrétiens. On est dans l'attente de ce jour-là, le jour glorieux qui va revenir nous chercher. Puis il va revenir comme en gloire, comme une armée préparée pour la guerre. Mais Jésus, il n'est pas qu'à ce moment-là que la guerre a commencé. Elle a commencé bien avant, il y a 2000 ans que la guerre a commencé, quand il est venu la première fois. Mais là, présentement, nous aussi, nous sommes ici pour remporter la victoire, parce qu'autant que Jésus a été vainqueur, puis qu'il est revenu sur un cheval blanc, nous aussi, nous devons remporter la victoire. Apocalypse 17, 14. Ils combattirent contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Nous sommes déjà en train de combattre, frères et sœurs. Nous sommes en train de combattre contre la bête, contre son système, contre le monde, contre le diable, contre notre chair. On est en train de combattre, frères et sœurs. Puis dans ce verset-là, ça nous dit que Jésus, il a déjà vaincu, là, il dit qu'il les vaincra parce qu'il est le Seigneur, Seigneur, mais il n'y a pas rien que Jésus qui remporte des victoires. Nous aussi, nous remportons la victoire. Ça dit que les élus, les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Là, vous me dites, ouais, mais c'est quoi ça, cette histoire-là de guerre, de remporter la guerre? Moi, je me lève le matin, j'ai dormi, j'ai eu de la misère à dormir toute la nuit, je me lève le matin, je mange mes toasts, puis je m'en vais conduire mon autobus. Après ça, je reviens le soir, fatigué de ma journée, puis je me couche, puis je dors. Où est-ce qu'elle est, la guerre? Quand on revient terre à terre, là, ça nous dit que Jésus il est venu, il a vaincu, puis il va revenir, puis il va revaincre encore, puis que tous ceux qui sont avec lui vont vaincre aussi. Mais où est-ce qu'elle est, la guerre? Si on regarde juste à nos yeux humains, on n'en voit pas de guerre si on est dans un pays tranquille. Ici, au Canada, on est dans un pays tranquille. On va peut-être pris une chicane avec notre femme ou nos enfants, mais ça se règle tout de suite. On n'est pas en guerre contre notre femme et nos enfants, là. Et où la guerre? Il faut le savoir. On est sûr d'être déjà des vainqueurs? On est sûr qu'on l'a remporté, cette guerre-là? Ou on est sûr qu'on est en train d'en livrer une? Puis il est important de le savoir, parce que si on ne réalise pas où est-ce qu'elle est la guerre, comment je peux combattre? Et si je ne combats pas, comment je peux être victorieux? Hein? Il y a une guerre, puis on va aller voir les versets. On a été rachetés d'entre les peuples. Nous sommes devenus la nation sainte. Qui ça? Mais les appelés, les élus. C'est qui ça, les appelés, les élus? Qui a été appelé, frères et sœurs? Sinon, nous, qui a reçu l'appel, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les appelle. Elles me suivent. On est les appelés. Mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que tu peux avoir été appelé puis pas avoir répondu à l'appel. Puis c'est grave, parce que ceux qui ne sont pas élus n'entreront pas, même si tu as été appelé. Il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est les appelés qui sont devenus élus puis qui sont fidèles, qui vont persévérer jusqu'à la fin à l'appel, qui vont faire partie des vainqueurs. Parce qu'il y en a certains, dans certains passages, on le voit, qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Ils vont abandonner le chemin, le sentier resserré, qui est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, pour je parle à ceux qui ont compris, là, on est des appelés, on est des élus, on est fidèles, puis on veut être fidèles, puis on veut... Qui ne veut pas être fidèle ici? Il n'y a pas de main levée, gloire à Dieu. qui ne veut pas être fidèle? Tout le monde ici, je pense, qui on veut être fidèle, puis on veut faire partie des vainqueurs. Amen. 1 Pierre 2, verset 9, nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Ceux qui sont fidèles, là. On est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Parce qu'on était acquis, ça a coûté quelque chose qu'on devienne à être ce peuple-là. Qu'est-ce que ça a coûté? Ça a coûté la mort de notre Sauveur. Ça a coûté la mort de Dieu. C'est grave. On était acquis pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés. On était acquis pour parler de Jésus. Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. On fait partie de la nation la plus bénie de toute la création, de toute l'histoire de création. Le but ultime de la création, c'était de se rassembler un peuple qui passerait à travers Jésus. C'est ça qu'est le plan de Dieu. D'emmener tous les gens dans le péché. C'était prévu que tout le monde tomberait dans le péché. Puis c'était prévu qu'il viendrait un Messie, un Sauveur. Puis c'était prévu par Dieu que le salut sera par la foi. Il fera un appel d'une manière invisible. Puis il parlera à nos cœurs. Puis il nous appellera à mettre notre foi dans ce Dieu invisible. Puis à avancer à chaque jour par la foi, en persévérant, en étant fidèle à marcher par la foi dans ce Dieu invisible, jusqu'à temps qu'on quitte ce monde. Puis qu'on considère que tout le meilleur va être à venir. Quand on va le rencontrer et qu'on le voit, on va le voir face à face. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est, on ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Y a-t-il quelqu'un ici qui l'a vu, Dieu? Non, mais on le connaît parce qu'on a, entendu sa voix, on a compris son appel, on l'a reçu. Il s'est passé quelque chose dans notre vie à partir de notre nouvelle naissance. Le Saint-Esprit a commencé à agir pour nous libérer, pour nous transformer, pour nous faire marcher dans la victoire. Parce qu'il y avait plein de choses à gagner, à combattre dans notre corps, puis qu'on devait vivre ce combat-là tous les jours. Maintenant, on est devenu le peuple de Dieu, puis on a encore les deux pieds sur la terre. Encore pour une mission, c'est ça qu'il nous dit dans le verset 9, « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. » Afin qu'on annonce comment ce Dieu-là qui nous a appelés, il est bon, il est grand, il est tout-puissant, il est miséricordieux, il est compatissant, il a plein de promesses pour nous, il a une espérance pour la vie éternelle, il nous pardonne. C'est toutes des vertus, ça. Faut annoncer ces vertus, faut le dire aux gens comment ce que Dieu est bon, comment ce Dieu est grand, puissant, etc. On a été sauvés dans ce but-là. Ça fait partie de notre guerre de l'annoncer. Maintenant, là, sur la terre, les deux royaumes sont là, sur cette terre. Le royaume de Dieu, il est deux pieds sur la terre, puis ce royaume terrestre-là, il est mené en majorité par l'ennemi, le royaume des ténèbres, le royaume du diable. Il règne sur la terre. Le prince de ce monde des ténèbres, c'est Satan et ses démons. Il y a toute une hiérarchie de démons qui règne sur cette terre. L'ensemble de la planète est mené par le mal, par le diable. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, là, il est 100% maîtrisé par l'ennemi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde au complet est mené par l'ennemi. Puis nous, on est comme retiré de ce monde, puis on est transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Du royaume de Satan au royaume de Dieu, à partir de notre nouvelle naissance. Puis là, on est un enfant de Dieu, un peuple acquis, un peuple racheté. On était appelé pour devenir un élu. Puis là, on est deux pieds encore sur la terre dans ce monde d'épaisses ténèbres. Puis là, il y a une guerre qui est devant nos yeux. Tous les jours, est là la guerre. Puis si je le réalise, je vais pouvoir combattre efficacement pour rester fidèle. Sinon, je tombe, je trébuche, je m'enfarge, je me roule dans la débauche, dans le péché, dans la corruption. Je continue à frapper ces clous des mains de Jésus pour lui faire encore plus de souffrance par tout l'ensemble de mes péchés que je peux commettre encore aujourd'hui parce que j'ai pas compris qu'on est en guerre. Puis je fais encore les mêmes gaffes, les mêmes péchés, les mêmes buts. Le but, là, c'était... Le vrai but qu'on est sauvé, c'est pour obéir à Dieu. Mais chaque fois qu'on manque le but, on pêche. On appelle ça un péché, manquer le but. On pêche, on désobéit, on transgresse sa parole, on vit dans selon le monde, selon le diable, selon notre chair, puis on fait grandement de peine à notre Dieu. Puis le combat, il est là, frères et sœurs, c'est à chaque jour qu'il faut réaliser qu'on est en guerre, puis on n'est pas dans notre monde. On est encore dans le monde des ténèbres, puis on a à lutter contre tout ce qui se passe autour de nous. faut s'accrocher à ce qui appartient à Dieu, puis il faut résister à ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a deux guerres, puis l'enjeu, là, c'est grave. L'enjeu, là, c'est l'âme de chaque être humain. Chaque être humain qui est venu au monde sur cette terre, là, son sort éternel, tout dépendant de sa décision qu'il prend, son sort éternel va être soit pour les vainqueurs qui vont obtenir la vie éternelle, la félicité éternelle, ils vont régner avec Christ, puis ils vont aller dans le paradis de Dieu, ou les perdants, ceux qui vont perdre cette guerre-là que je vous parle, ils vont obtenir la perdition, la honte et l'opprobre éternelle, des pleurs et des grincements de dents, privés de la gloire de Dieu. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'étang de feu, pour l'éternité dans l'étang de feu, parce qu'ils ont perdu le combat. Ils sont d'une perdition tellement grave qu'on ne peut même pas encore y penser qu'en même que ça va être grave, puis ça a sans fin, là. C'est sans fin, il n'y a pas de revenez-y. Si tu meurs dans tes péchés t'empêchent d'entrer dans la présence du Dieu trois fois saint. C'est grave l'enjeu. Puis juste pour le plaisir du temps passager, il y a des gens qui vont avoir une conséquence incroyable. Puis juste le fait de remporter la guerre en prenant ce que Dieu nous offre, puis de commencer à rentrer dans le combat, c'est les bénédictions et la récompense qu'on va avoir dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Depuis 2000 ans, il y a une bonne nouvelle qui se répand, frères et sœurs. C'est que l'ennemi, il a été vaincu. Depuis 2000 ans que l'ennemi était vaincu. Dans 1 Jean 3,8, ça nous dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Depuis 2000 ans que ce message-là est, mais le diable est en cours là. Notre chef, là, Jésus-Christ, il l'a vaincu en ressuscitant d'entre les morts. Le diable a été vaincu, c'est ce que ça nous dit dans Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le diable et toute sa puissance, son ordre démoniaque de toutes les dominations et autorités présentes des princes de ce monde de ténèbres ont été vaincus. C'est Jésus, notre maître, notre sauveur, notre seigneur, c'est lui qui a remporté la victoire, voilà 2000 ans. Il a triomphé sur tout ça par la croix. C'est à cause de cela, la croix, qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont appelés, qu'il y a des gens qui deviennent élus, puis il y a des gens qui persévèrent dans cette foi-là, sachant que la victoire est déjà accomplie. C'est là-dedans qu'on marche présentement, frères et sœurs. C'est là-dedans qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Parce que si on abandonne cette espérance-là, il n'y a pas d'autre espérance d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre bouée de sauvetage que Dieu a donnée aux humains par lequel on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre que la croix de notre Seigneur qui est mort il y a 2000 ans dans le but de verser son sang pour purifier nos péchés, puis est ressuscité pour aller présenter ce sang-là auprès de son Père sur l'autel de Dieu, puis que ça nous assure d'être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Puis c'est lui qui a vaincu le diable, c'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui peut nous donner l'assurance de la vie éternelle. L'ennemi y est vaincu, frères et sœurs, depuis 2000 ans, mais il lui est permis d'agir jusqu'au temps du retour du Maître. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'était écrit après la mort de Jésus. Ça veut dire que le diable est encore pleinement ici, puis il cherche encore à dévorer. Il cherche encore à détruire. Puis si les chrétiens ne réalisent pas que le diable cherche à détruire, là, mais ils se font embarquer dans la destruction, puis ils s'en rendent même pas compte.
Il va chercher même les élus.
Oui. Il cherche à séduire même les élus par ses faux miracles, puis aussi par ses attaques de toutes les sortes, des tentations sur le péché, puis nous faire tomber dans le péché pour nous amener à désobéir à Dieu. Le diable, il agit, là, sans... Il vient pas nous dire, « Hey, je suis le diable, m'en viens te tenter. » Il nous le dit pas. On s'en rend même pas compte, mais on voit une fille devant nous, puis on est séduit par son corps moulant, puis on est attiré à aller dans la couchette quand on le sait que c'est un péché devant Dieu. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'exemples de péchés sous toutes les formes. Puis le diable nous tente sans nous avertir, puis il nous attire dans nos convoitises, dans les choses qu'on aime. Pas que moi, l'homme d'Agnès de Poulain, aime nécessairement les choses que mon corps aime. Puis l'ennemi sert de tous les moyens de ruse. C'est par ruse qu'il vient pour nous attaquer. La combat, là, c'est tout subtil. C'est tout comme à briller sans qu'on voit clair. Il faut vraiment que tu aies les pensées allumées pour réaliser qu'il est là. Parce que si on est pensé endormi, comme qu'il nous le dit, prenez garde, puis de veiller. Si on est pensé endormi, là, on ne voit même pas rien arriver, puis on embarque dans ses pièges, puis on pêche devant Dieu, puis on se pense correct. On arrive à l'église, les deux bras dans les airs, puis on se pense correct. On pense correct hein, qu'on est assis là dans l'église. Le diable rit parce que toute la semaine, il nous maintient liés dans ses péchés. Lui, il sert de ruse, des moyens de séduction. C'est séduisant, les péchés. C'est séduisant, ça a l'air comme à Ève, c'était agréable à la vue de regarder ce fruit défendu-là. C'est séduisant, ça semble intéressant, ça a l'air même bon. Ça a l'air être bien plaisant, puis bien, on a du fun, là. Un beau party, mais c'est du péché. Puis il vient avec des mensonges pour entraîner les gens à subir la même condamnation que lui. Parce que Dieu, même si le diable y était vaincu, Dieu y a laissé du temps à continuer à agir jusqu'au retour de Jésus. Parce que quand Jésus va revenir, il va être saisi, puis il va être enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. Mais dans ce temps-là, il séduit, il tente, il essaye de faire chuter les serviteurs de Dieu dans le péché, puis il essaye d'empêcher l'humanité au complet à essayer d'aller à Jésus pour être sauvé, les gens reçoivent la parole, puis le diable vient, il enlève tout de suite là, qu'est-ce qu'ils ont reçu. Si les gens ne le reçoivent pas avec foi, dans des cœurs, dans la bonne terre, pour que ça prenne racine, puis que ça porte du fruit, ils se font enlever, ou ils se font sécher au soleil par les tribulations, puis ils abandonnent, ou bien ils sèment parmi des épines, puis des ronces, puis ils sont étouffés, puis il n'y a pas de fruits qui viennent à maturité. Ils travaillent à essayer de mettre des bâtons dans les roues. Il essaye d'amener les gens à la même condamnation que lui. Il sait qu'il est perdu, il sait que son jugement s'en vient, il sait, le diable, que l'étang de feu a été créé pour le diable et pour ses anges. Il sait. Mais il essaye d'emmener le plus de humains possible avec lui, puis les jeter dans cet étang de feu-là avec lui. C'est grave. Puis les humains, s'ils réalisent pas, ils ont bien du fun à faire les péchés que le diable leur suggère, puis ils s'en vont tous à la même place. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Il faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Je vais toujours le répéter, ce verset-là. C'est pas suffisant d'avoir compris que Jésus, c'est le Seigneur. C'est le Sauveur. Faut aussi que tu marches en communion avec l'Esprit de Dieu. Faut que tu marches à greffer au cep. C'est ça le chemin. Faut que tu demeures en communion avec Jésus. Si tu pêches, t'es déconnecté. Si tu demandes pardon, t'es connecté. Tes péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Il faut apprendre à combattre le péché parce que ça nous sépare de Dieu si on ne le confesse pas. Je dis pas qu'il faut en faire, puis les confesser, d'en faire, les confesser, puis on a du fun. On fait des péchés, puis on les confesse, puis on a du plaisir à les faire, puis à demander pardon, ça marche pas de même. On se moque pas de Dieu. Faut pas attendre que Dieu nous déconnecte complètement, puis nous jette avec les branches, puis là, ils vont sécher. Après ça, ils vont les prendre, puis ils vont les mettre au feu, et ils brûlent. On peut pas jouer que ça, frères et sœurs. La grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu, L'enfant prodigue, Dieu était prêt à l'accueillir. Mais Dieu veut pas qu'on passe notre vie à retourner dans le monde pour venir demander pardon au Père, retourner dans le monde pour venir demander pardon. Combien de fois que l'enfant prodigue peut jouer avec son Père? Il va-tu me reprendre au bout de 500 fois? Là, c'est de jouer avec la patience de Dieu. Moi, je pense pas qu'on puisse faire ça. Faut rester fidèle, frères et sœurs, déterminés, puis lâcher d'écouter l'ennemi ou d'écouter nos propres pensées rebelles, parce qu'il y a des esprits de rébellion qui nous mettent des idées de se rebeller, puis qu'on pêche contre Dieu continuellement, puis il nous traîne dans la boue, puis il nous souille, puis il rit de Dieu. Tu veux ton enfant, qu'est-ce que je fais avec? Puis il essaye de nous séparer de Dieu pour nous emmener dans les temps de feu avec lui. C'est grave. Mais l'ennemi était vaincu, puis il a déjà remporté, Dieu a remporté la victoire sur, l'ennemi a remporté la victoire sur l'ensemble de l'humanité, puis continue d'agir sur eux. Même si l'ennemi a la permission de continuer à rester dans ce monde, puis continue d'agir pour maintenir les gens dans l'ignorance, dans le mensonge, dans ses pièges, dans ses péchés. 1 Jean 5,19, ça nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Puis il y a certains chrétiens aussi qui n'ont pas compris puis qui sont encore les deux pieds dans ses pièges. Puis nous, frères et sœurs, faut pas oublier qu'on n'a rien de mieux que les autres. On n'est pas mieux. On n'a pas à se glorifier, dire, tu vois, moi, je suis encore un fidèle, je suis encore là 30 ans plus tard, je suis bon, je suis... Non, non, non. Parce que nous, là, nous aussi, on était perdus, on est entraînés par le diable, puis on s'est corrompus dans nos péchés, puis ils nous en avaient rendus esclaves, la même chose que les autres. Puis même une fois qu'on est devenu chrétien... Souvent, on l'a encore écouté, souvent, l'ennemi. Puis on l'a demandé pardon, mais on a retombé souvent, fait qu'on n'a aucun mérite d'être encore là. C'est ce que ça nous dit dans Éphésiens 2. On est à mort dans nos offenses, dans nos péchés, quand on marchait autrefois selon le train de ce monde. On marchait selon le train de ce monde. On marchait selon le monde. Tout ce qui se fait dans le monde, let's go. Tout le monde le fait, fais-le donc. C'est ça que le monde enseigne. Tout le monde l'a fait, fais-le donc. On était pris selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit des fils de rébellion. On était sous son emprise. Nous tous, on était de leur nombre. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair. On accomplissait la volonté de notre chair et de nos pensées. On était par nature des enfants de colère, comme les autres. Il faut se rappeler d'où ce qu'on vient, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous a sortis de là et qui nous a lavés. Sinon, on était tous des souillés qu'on prend et qu'on jette dans l'étang de feu. On n'a aucun mérite. On n'est pas meilleur. Puis jusqu'au jour où Christ nous a été révélé, on était dans les ténèbres comme ça, jusqu'à temps qu'on réalise, « Hey, Jésus, il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. » Là, on l'a reçu, puis là, Dieu a commencé une œuvre de délivrance. C'est ça qui est le plus beau de l'histoire. C'est qu'est-ce qui se produit quand tu nais de nouveau? Quand tu t'es réellement repenti, puis t'as demandé pardon, il te lave par son sang. Il te purifie. Il te pardonne. Mais là, il te donne le Saint-Esprit qui rentre en toi. Ça s'appelle naître de nouveau, naître de l'Esprit. L'Esprit rentre en toi, tu deviens une nouvelle créature. Il y a des choses qui commencent à changer dans ta vie. Il y a des affaires que tu aimais, des péchés. Tu es délivré à partir du premier jour que tu as confessé le Seigneur. C'est extraordinaire. La puissance de Dieu commence à agir dans ta vie commence à changer. Il y a plusieurs de nos péchés qui sont enlevés dès le début de notre vie avec Christ. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, j'étais lié par la drogue, j'en prenais à tous les jours. Je me levais le matin, je fumais au couteau, je fumais du hache au couteau. J'étais esclave de tout ça, mais je n'étais pas capable d'arrêter. J'étais un blasphémateur, j'étais un voleur, je faisais plein de méchanceté. Mais je lisais la Bible le soir. Je l'ai pas gelé, je lisais la Bible. Puis je voulais apprendre à connaître le Seigneur. J'en avais entendu parler dans le shop. Puis j'ai été pendant un an de temps à continuer à lire la Bible chez nous après. Puis je lisais la Bible, puis je cherchais à connaître. Puis j'étais dans la débauche, dans le péché. Puis je me corrompais, il n'y a pas de loi à énumérer tout cela. À partir du moment que j'ai donné ma vie au Seigneur, la journée même que j'ai donné, il m'a libéré de la drogue. J'avais plus aucun désir d'en prendre. C'était comme si ça sortait de moi. Je suis revenu de l'église. Puis là, j'écoutais mon corps, là. J'avais plus de désir de l'en prendre. Ça sortait de moi. Avant, c'était, ah oui, vite, encore, puis j'étais tout haut. Puis aussitôt, je voyais quelqu'un fumer du hache ou du pot devant moi, c'était tout de suite un réflexe, fallait que je peigne le joint, puis j'en prenne. Il m'a libéré tout de suite, j'avais plus aucun désir, je regardais les autres, je disais, hey, c'est plus pour moi, ça. Je suis libéré de ça. C'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Puis j'ai dit à un de mes chums, j'ai dit, passe-moi-les. Je reprends son joint de pot. Deux, trois pas. Non, c'est plus pour moi, j'ai plus besoin de ça. J'étais libéré, j'ai pas touché à ça tout ce temps-là. Le Seigneur m'a libéré. À partir que tu donnes ta vie au Seigneur, il te libère. Pas juste de ça, il commence à te libérer de toutes sortes d'affaires. Moi, dans la première semaine, là, je pensais, à chaque fois que je disais un sac, ça sonnait comme une cloche dans mes oreilles. Moi, avant, là, c'était, je faisais des verbes avec les sacs. Tu sais, quand tu fais des verbes, tu fais des adjectifs dans ta phrase, tu fais des compléments, tu fais des attributs dans ta phrase, tout bâti avec un paquet de sacs. Toutes des blasphèmes, prendre le nom de Dieu en vain, qui est un des 10 commandements de Dieu. Puis pour un jeu, il y avait aussi les sacs catholiques, mais avec ça, mais pour Dieu, c'est pas ça, les sacs, c'est de prendre son nom en vain. Seigneur Jésus-Christ, Jésus. Puis en plus, il y en a qui maudissent, ils mettent maudit. Puis mettre le nom de Jésus après ça. En tout cas, toutes les blasphèmes qu'on a, on faisait des phrases avec ça ici, les Québécois. Puis, le Seigneur, à chaque fois que j'en faisais un, ça me sonnait comme une cloche, il me le montrait, puis là, je réalisais, dans la même semaine, j'ai été libéré de ça, j'en faisais plus. Le Seigneur, là, il est tout puissant, il peut nous délivrer de tout ce qu'on a comme problème, comme péché, comme tentation, désir, mauvaise pensée, mauvaise parole, des sentiments, des blessures, n'importe quoi qu'on a, il peut nous guérir puis nous délivrer. En autant qu'on y croit puis qu'on y demande, mais il faut y confesser, si j'ai un péché puis je l'aime puis je ne l'avoue pas, je m'en sors pas, c'est comme les alcooliques anonymes, tu veux être libéré d'alcool, mais il faut que tu le confesses que tu es alcoolique, si tu ne l'avoues pas, tu peux pas t'en sortir. Puis, je t'avoue pas qu'il y a un être suprême, Dieu, qui peut t'aider. Tu vas avoir bien de la misère parce que tu vas y aller avec tes forces. Mais si tu demandes de l'aide à Dieu, Dieu va t'aider. Dieu veut libérer les gens. Il est venu pour libérer les captifs. Il y a des gens pris de démons, il est délivré. Les gens étaient malades, il est guérissait. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Puis là, tu commences ta vie chrétienne, il commence à te délivrer de certaines affaires. Puis là, plus tard, là, après plusieurs semaines, des mois, les années passent, on réalise qu'on n'est pas encore totalement délivré de tous nos péchés. Comment est-ce qu'il y en a qui ont réalisé qu'ils ne sont pas encore tous délivrés de tous leurs péchés? Ça veut dire que Dieu, il n'a pas fini. Pas fini avec nous autres. Pourtant, Dieu, s'il aurait voulu, il nous en aurait délivré de tous nos péchés instantanément, pas juste les pardonner, on serait tous des délivrés. S'il aurait voulu, là, on n'avait plus aucun péché pour tout le reste de notre vie. S'il aurait voulu, on aurait pu vivre 500 ans de plus sans péché. C'est lui qui a décidé de nous donner certaines délivrances. Puis qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas, il y a encore les délivrances. Il sait Dieu, il est voué tous nos péchés. Il les voit tous nos péchés. Nous, on les voit pas tous, lui est voué tous. Puis il sait qu'on n'a pas tous reçu la délivrance. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu ne nous a pas totalement délivrés quand on a accepté Christ? Pourquoi Dieu ne nous a pas tout délivrés de tout ce qu'on avait à vivre en acceptant? Là, on peut donner un paquet de raisons, mais il y a des raisons décrites dans la Bible. Pourquoi qu'il n'a pas tout fait tout de suite? Il y a plein de bonnes réponses, mais on va y aller avec un verset. Je me le demandais, ça, c'est une bonne question, là. Pourquoi que j'ai pas été délivré tout de suite à ma conversion si Dieu n'aime pas le péché, puis Dieu voulait me délivrer? Dieu a donné la même réponse aux Juifs dans Juge 2, verset 22. C'est parce qu'on est appelé à apprendre la guerre. Là, pour me mettre dans le contexte, lisez pas le verset de suite. Là, on arrive face à la terre promise. Moïse, par la direction de Moïse, Dieu a conquéri deux tribus ennemies qui ont pris possession du territoire avant la terre promise. Puis là, il fallait qu'ils rentrent dans la terre promise. Puis là, comme on le sait, Moïse, il est décédé. Puis Josué a pris sa place. Puis là, Josué a conduit le peuple d'Israël à prendre possession de la terre promise. Puis il y avait plein de villes à prendre possession, plein. Puis là, Josué a commencé à conduire le peuple par la direction de Dieu pour prendre possession. Chaque ville qui était maîtrisée, ça voulait dire Dieu a donné la victoire à Israël, puis il a donné possession de cette ville-là. Puis quand que Josué il a fait son temps, Dieu n'avait pas tout conquéri toutes les villes d'Israël. Puis il y avait une raison pourquoi que Dieu n'a pas tout accompli, toutes les villes, tout d'un coup, suite en partant. Pareil comme nous, il y a une raison pourquoi Dieu ne nous a pas délivrés de tous nos péchés, tout en même temps, suite en partant. Dieu, il y avait un but dans tout cela. C'est là qu'on rentre dans Juge 2, le verset 22. « C'est ainsi que je mettrai par elle, Israël, à l'épreuve. » Pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne se hâta point de les chasser. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas hâté de les chasser toutes les villes. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui l'avaient pas connue auparavant. Il y a 3-4 points bien importants dans ce verset-là qui nous expliquent pourquoi Dieu n'a pas pris possession d'Israël puis se dépêché à tous les chasser tout de suite d'un coup sec. Puis que c'est la même affaire pour nous. Pourquoi Dieu ne nous a pas délivrés de tous nos péchés tout de suite en se convertissant? Dieu se sert de ça pour faire une œuvre en nous. Premièrement, le verset 22, il parle des nations d'Israël, les nations qui sont restées là, c'est pour mettre Israël à l'épreuve. Parce que là, après ça, Israël continuait à côtoyer ces habitants-là. Puis est-ce qu'il était tenté de faire la même chose que ces habitants-là? Donc, le fait que ces habitants-là sont restés là, puis Israël savait qu'il fallait qu'ils prennent le territoire, quelle est son attitude à Israël face à cette ville-là qui était là, qui devait être chassée? Est-ce qu'il faisait des alliances avec? Est-ce qu'il faisait du compromis? Est-ce qu'il allait s'unir en mariage avec ces filles-là? Est-ce qu'ils ont été tentés par leur faux dieu? Est-ce qu'ils se sont livrés au même débordement de débauche? Est-ce que ces choses-là Est-ce qu'Israël s'est dit, ça c'est un peuple qui doit décoller de là, puis par la puissance de Dieu, on va avoir la victoire, puis on va les combattre, puis on se laissera pas faire, puis on se laissera pas embarquer, ou c'est l'autre côté? Ah, salut les gars, on s'en bras-dessus avec les ennemis, les pécheurs, puis les chrétiens dans leur péché, ils ont pas eu la délivrance complète de tous leurs péchés, sont encore tentés dans leur péché, ils embarquent encore dans le péché, ils pataugent dans le péché, puis Dieu a permis que ce péché-là reste là, dans le but de t'éprouver, dans le but de connaître ton cœur, dans le but de voir si vraiment tu vas t'attacher à l'Éternel de tout ton cœur, dans le but si tu vas commencer à combattre contre le péché, puis à lutter jusqu'au sang contre le péché. Parce que si on aurait été délivré de tous nos péchés, on n'aurait plus eu de tentation, on n'aurait pas eu de combat, on n'aurait pas pu apprendre la guerre. C'est ça le but du message aujourd'hui, l'introduction. On a été préparé à la guerre, préparé pour la guerre. On est sauvé, puis Dieu a fait exprès de ne pas nous délivrer de tous nos péchés, parce qu'il veut nous apprendre à dépendre de Dieu. Il veut nous apprendre à dépendre de lui. Il veut qu'on s'accroche à lui, puis qu'on combatte contre tout ce qui est autour de nous, puis en nous, qui n'est pas de Dieu. Paul, il dit, je sais que ce qui est en moi, c'est, il n'y a pas de bon dans moi, puis ce qui est bon, en réalité, c'est rien que Dieu qui est bon. Toute notre chair n'est qu'un péché. Puis tu vas avoir à combattre contre ta chair, contre le diable, contre le monde, toute ta vie. Puis si t'es encore les deux pieds dans le monde, Dieu aurait pu faire, aussitôt que tu te convertis, tu te retrouves dans les cieux. Non, il a voulu qu'on ait encore les deux pieds dans le monde, puis notre cœur est mis à l'épreuve tous les jours, pendant tout le reste de notre vie, les tentations du diable, les désirs de notre chair, le monde avec ses convoitises. Là, est-ce qu'on se sépare, qu'on se sanctifie, qu'on combat, qu'on résiste, qu'on dit non, puis on refuse, puis on prend autorité dans le nom de Jésus, puis on se bat pour rester, comme garder le contact, ou on se livre à toutes les débauches, puis les convoitises, puis les péchés qu'il y a devant nous. Notre cœur est mis à l'épreuve, puis au verset 1 de Juges 22, 23, 22, le Juges 2, 20, chapitre 3, ça dit, il est là cela pour éprouver par elle Israël. Pour le verset 2, ça dit, il veut que les enfants d'Israël apprennent la guerre. Il veut qu'on connaisse la guerre, qu'on apprenne la guerre. Frères et sœurs, nous sommes en guerre depuis notre conversion. Lorsqu'on s'est converti, on a décidé, toi Satan, je ne peux rien savoir de toi. Maintenant, je donne mon allégeance à Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur et mon Roi, c'est lui que je veux suivre à cette heure. On vient de faire une déclaration de guerre à Satan par ses démons. Il est vaincu, mais il agit encore pour essayer de nous rattraper, puis de nous faire chuter, puis de nous traîner dans la boîte, puis il va essayer de nous entraîner avec lui, parce que lui, son jugement y est donné. Dieu a permis qu'il y ait différents obstacles qui sont à travers de notre vie, à travers de notre route, pour éprouver notre cœur. Donner comme exemple, tout ce qui est des attaques de l'ennemi, tout ce que l'ennemi fait pour nous faire tomber dans le péché, toutes les diverses tentations, tous les soucis de ce monde, les poursuites des richesses, les plaisirs défendus, puis même nos droits légitimes. Moi, là, c'est normal que je me repose, c'est normal que je vais en vacances, c'est normal que j'ai des loisirs. Puis là, on en vient à faire passer nos loisirs, puis passer notre temps rien que des loisirs, puis on n'a plus de temps pour Dieu, comme qui dit dans la parole, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est des droits légitimes, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais quand tu viens à Jésus, oublie pas que tu lui as donné ta vie. Faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Si tu as donné ta vie, le diable essaie de te dire, oui, mais t'as le droit de t'amuser, t'as le droit de patauger dans ces affaires, t'as le droit d'aller prendre une bière aux danseuses, t'as le droit. Dieu, regarde, tu y étais la semaine passée, puis Dieu t'a pas frappé. Ouais, mais là, c'est pas à cause que Dieu t'a pas frappé que Dieu y est de bonne humeur. Dieu y a eu le péché. Ça a coûté sa vie pour le rachat. Il veut qu'on prenne ça au sérieux, le combat spirituel, puis la guerre qu'on est en train de livrer, frères et sœurs. L'Éternel, il veut nous apprendre le combat. Psaume 18. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Touche. Et clairement, on a parlé de l'arc la semaine de l'autre fois. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ah, est-ce qu'on est des soldats comme ça, nous autres? Est-ce qu'on poursuit nos ennemis, puis on les atteint, puis on ne revient pas avant de les avoir anéantis? Moi, je parle pas de combattre contre les humains, juste combattre contre nos péchés, juste combattre contre le diable quand il vient, ou les pensées du monde. De les poursuivre, les atteindre, puis de pas revenir sans les avoir anéantis. Ah, est-ce que je les brise? Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis, puis ils fuient devant moi, et j'exterminerai ceux qui me haïssent. Est-ce que le diable fuit devant vous? Il dit, résistez au diable, puis il fuira devant vous. Chaque fois que vous êtes en train de résister, puis il dit, non, arrière de moi, Satan, il s'en va en fuite. C'est en train de s'accomplir, cette prophétie-là. C'est spirituel, ça, ce passage-là, frères et sœurs. Dieu nous apprend, le premier verset, il exerce mes mains au combat. Puis on a à être exercé. Qu'est-ce que ça veut dire, exercer? Mais t'as une épée dans les mains, là, puis tu te pratiques. Quand arrive le combat, t'es habile. Tant, tu fais un blocage, puis sling, et voilà. Dans le nom de Jésus, hein. Il est écrit, hein. En voilà des coups d'épée que tu donnes. Mais il faut que tu apprennes la guerre. Tu n'es pas devenu un soldat parce que tu es au monde. Tu as besoin d'entraînement. Tu as besoin, premièrement, de réaliser qu'il y a une guerre. Tu as besoin de réaliser qu'il y a de l'entraînement, spirituellement parlant. Ce qu'on vient prendre ici ce matin, là, c'est de l'entraînement spirituel. Pour être capable de vivre notre guerre et de rester debout, puis pas tomber, puis de commencer à bloquer ce qui vient, quand le diable vient. Cette semaine, j'ai eu à résister au diable. Il est venu comme un esprit de peur ou de crainte pour essayer de m'envahir mon esprit, puis me troubler. Tout quand je l'ai senti qu'il était à côté de moi, arrière de moi, Satan. Puis il est parti. Ça m'a rien fait. Mais ce n'est pas revêtu de l'armure, puis tu combats pas, puis tu donnes pas le coup d'épée. Mais il continue à agir dans toi, là, tu t'es pogné avec ses amis. C'est de l'amertume ou de la peine ou de la souffrance. T'as été blessé dans ton âme, puis c'est comme une mauvaise nouvelle, mais c'est un poison. C'est un poison que le diable essaye pour nous ralentir, pour nous décourager. Frères et sœurs, on a à combattre, puis à rester debout, puis à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis là, continue de persévérer, puis on a besoin du soutien de un puis de l'autre pour se maintenir en courage, pour persévérer. C'est pas une marche solitaire, c'est une marche en équipe. C'est pour ça que Dieu donne des rassemblements pour que le peuple devienne édifié, fortifié, qu'on devienne tous à la stature de Christ. C'est ça le but de l'Église. Bon, on a besoin de prier les uns pour les autres, parce que l'ennemi essaie de nous arrêter. On doit apprendre à utiliser les armes de Dieu puis de lutter efficacement. Ça s'apprend. C'est ça qu'il exerce mes mains au combat. On a à apprendre. Ce psaume qu'on vient de voir nous apprend qu'avec Dieu, nous serons victorieux. Parce que le verset 37, il dit, « Je reviens pas avant de les avoir anéantis. » Ça veut dire que Dieu t'a rendu vainqueur. Verset 38, « Je les brise, ils peuvent plus se relever, puis ils tombent sous mes pieds. » C'est parce que Dieu te les met sous tes pieds, tu as utilisé les armes de Dieu, puis tu as eu la victoire. Verset 39, « Tu ceins de force mes reins pour le combat. » Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Ça veut dire que si on est dans la victoire, on utilise les armes de Dieu, c'est officiel que tu es vainqueur. Mais qu'est-ce qui pouvait se passer? Qu'est-ce qui se passerait si le peuple juif ne se défendait pas contre l'ennemi qui venait pour les attaquer? Qu'est-ce qui serait passé? Il se ferait anéantir, il se ferait envahir, il perdrait la ville qu'il y avait d'acquis. Pourtant, c'est Dieu qui avait donné, mais tu peux perdre des choses que Dieu t'a données. Il appelle ça se faire voler ses bénédictions. Ça, il y a un verset, il faut que je fasse une mise au point. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais la phrase, on l'applique mal. Parce que ça arrive que des rois qui ont été rejetés de leur royauté, il y a des prophètes qui ont été jetés de leur d'attitude de roi, puis il y a des juges qui ont été rejetés, puis ça a tous des titres donnés par Dieu, puis il y a des prophètes, rois, puis il y en a un autre, des sacrificateurs qui ont été rejetés en tant de lignée sacrificateur, puis ont été rejetés. Dieu, quand il dit « il ne se repent pas de ses dons, de ses appels », ça ne veut pas dire que Dieu te l'enlèvera pas. Que Dieu te les donne pour tout le temps, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne te le donne pas avec regret. Il ne se repent pas de ses dons. Il te le donne, puis il ne regrette pas de te le donner. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas attention avec, que tu ne le perdras pas. Parce que si tu marches de manière tout croche, il y a du monde roi, prophète, sacrificateur, juge, ils ont été rejetés de leur poste par Dieu parce qu'ils marchent tout croche. Puis là, c'est la même chose pour notre vie à nous autres. Dieu nous donne des choses, mais il faut marcher avec, puis les maintenir, puis les garder, puis faire attention à ce que Dieu nous donne. C'est le terrain qu'on a d'acquis dans notre terre promise personnelle. Puis si je ne fais pas attention, puis je marche tout croche, Dieu peut m'en enlever des bénédictions qu'il m'a données. Ou le diable va me faire reculer dans mes points que j'avais d'acquis, puis je vais prendre du recul, puis je vais perdre les villes, puis je perds les batailles. Puis je me retrouve, ma vie chrétienne, je suis complètement envahi par le diable, puis j'ai plus rien de victoire. Tant que je me reprends pas en main, puis je recommence pas à combattre pour reprendre le terrain. Spirituellement, des fois, on prend du recul, mais là, faut être décidé à combattre, à persévérer jusqu'à la fin. C'est de même qu'on va saisir tout l'ensemble des promesses que Dieu a pour nous, puis en plus, on va porter beaucoup de fruits. 2 Timothée 2. Et on a une exhortation à persévérer dans le combat. Souffre avec moi. Au verset 3. Souffre avec moi. Il n'y a pas de guerre sans souffrance. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. On est en guerre, on est des soldats. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il dit « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Être un soldat, ça sous-entend de la souffrance, du renoncement, de l'obéissance, du travail et des récompenses. Il n'y a pas de récompense si tu n'as pas remporté. Sauf à apprendre qu'un chrétien, on n'est pas des mauviettes. On est des soldats entraînés par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce seigneur-là nous a dit prophétiquement au début qu'on était vainqueurs. Fait que spirituellement, il va en avoir plein de vainqueurs. La question que je dois me poser, est-ce que moi je vais être vainqueur? Est-ce que je vais me tenir debout jusqu'à la fin? Est-ce que je vais être en train? Est-ce qu'on va être un héros de la foi? Est-ce qu'on va avoir appris la guerre, puis combattre, puis persévérer? À l'exemple de l'apôtre Paul, en Philippiens 1, 29, il nous dit, « Il vous a été faite la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous apprenez que je livre encore maintenant. » Non seulement c'était une grâce d'être sauvé, oui, merci Seigneur, je suis sauvé, alléluia, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais il t'a donné une autre grâce, mais celle-là, on n'a pas de l'air à trouver ça aussi réjouissant. Il nous a donné une autre grâce d'être apte à souffrir pour Jésus comme un soldat. C'est ça que ça dit. C'est un cadeau que Dieu nous donne de souffrir. puis de combattre, puis de lutter, puis de persévérer, puis de travailler dans son œuvre, puis d'encourager ceux qui travaillent, d'être là en arrière d'eux autres pour les prier pour eux autres, pour les faire avancer. C'est une grâce qu'on lit ce combat-là. Paul, il dit, je l'ai soutenu ce combat-là, puis le monde le voyait aller dans son combat, puis il dit, c'est une grâce que toi de souffrir, puis d'accomplir le même combat que j'ai fait. Dernier verset. Il y a une assurance du combattant qui a achevé sa course, puis qui marche en vainqueur. Dans 2 Timothée 4, le verset 7, Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Gloire à Dieu, alléluia! L'apôtre Paul, il a combattu. Premièrement, combattre, c'est une chose, mais combattre le bon combat, ça en est une autre. Parce que tu peux être en train de combattre dans ta vie, puis tu ne combats pas pour les bonnes affaires. Tu peux être en train de combattre pour te ramasser des richesses. Tu peux être en train de combattre pour les convoitises de ce monde, puis qu'il y a rien que les idées des choses de ce monde qui t'intéressent. Tu peux être en train de combattre pour gagner une autre femme de plus. C'est des combats, c'est pas les combats que Dieu nous appelle à livrer. Combattre le bon combat. Achever la course, garder la foi. Rester jusqu'à la fin. Ceux qui se rendent jusqu'à là, la couronne de justice est réservée. Ça, c'était le premier message de la série de 19 messages que je vais vous apporter. Les autres messages, vous allez voir quels sont les combats. Là, on vient d'apprendre qu'on est en guerre. C'est quoi les combats qu'on a à livrer? Il faut discerner nos ennemis. Il faut savoir quels sont nos alliés. Puis quelles sont les armes et la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Ça va être la suite. Prions. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on s'approche. Je te remercie pour ta parole, ça fait du bien. Ça nous fortifie, ça nous réveille, ça nous donne une vision pour ton œuvre, qu'on est en guerre et qu'on a à lutter contre tout le mal qui nous entoure, Seigneur. Je te demande de nous garder, de nous réveiller, de nous garder cela clair dans nos pensées, puis qu'on apprenne le combat, puis qu'on se met à combattre, puis prendre autorité quand c'est le temps, puis rejeter quand c'est le temps, puis de résister quand c'est le temps, afin qu'on tombe pas dans les pièges que l'ennemi ou le monde ou notre chair puisse nous entraîner, puis qu'on puisse combattre le bon combat, garder la foi jusqu'à la fin. Remets nos ventres entre tes mains, Seigneur, conduis-nous par ton esprit, par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen.